Alors, troisième point, alors ça paraît plus bizarre, mais en fait, c'est ce sujet que je vais développer ce soir. Alors, je trouve qu'il y a un équilibre absolument unique entre, parce que composer, c'est penser. La composition suppose une pensée. Et alors, la pensée, vous savez que la pensée fonctionne sur différents registres. Eh bien, la pensée dans ces quatuors, Beethoven, il y a une association absolument, un équilibre absolument étonnant, admirable, entre la pensée logique, donc la pensée du compositeur qui agence des fragments, des morceaux, des notes, la pensée affective, c'est-à-dire l'être qui a des émotions, des sensations, qui souffre, et ce que j'appelle la pensée pragmatique, c'est-à-dire l'art de savoir mettre en scène tout ça. Parce que si on s'aperçoit en fait que si l'une de ces trois pensées est plus faible que les autres, eh bien l'œuvre elle-même s'en ressent. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont extrêmement brillantes du point de vue de la pensée logique, mais elles manquent parfois d'émotion, on sent que ça manque de contenu expressif. Ou alors, les deux sont là, mais le compositeur ne sait pas très bien comment réaliser ses idées. Alors, ce qui est remarquable chez Beethoven, c'est que les trois sont là. Et quand je parle de... Curieusement, ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas biunivoque, mais j'ai trouvé un certain lien entre pensée affective et matériaux. Matériaux, ça veut dire par exemple un motif, un thème. Pensée logique et organisation discursive, c'est-à-dire que, et on le verra surtout demain avec les derniers quatuors, la manière dont Beethoven construit des architectures qui sont des choses pensées pour justement dans un certain ordre et avec des correspondances, des équilibres, des symétries, des dissymétries. Donc ça, c'est bien de l'ordre de la pensée logique. Et puis, la pensée pragmatique, c'est justement ce que j'appelle le son et ce dont on va parler un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que justement, Beethoven, bien qu'il soit sourd, à une espèce de sentiment extraordinaire des possibilités du son et comment dire, des possibilités à la fois physiques et expressives du son. Alors ça, on verra ça dans quelques instants. Mais avant d'y venir, je voudrais quand même insister sur un point important de la personnalité de Beethoven, ou de son art, disons les lignes de force de son œuvre, j'appelle les lignes de force là, c'est évidemment... D'une part, la puissance, parce que je pense que la puissance et l'énergie, la puissance est peut-être ce qui le caractérise avant tout, et l'énergie aussi. Et s'il y a un autre compositeur que l'on peut taxer d'énergie qui se rapproche de Beethoven, c'est sûrement Bartok. Les deux compositeurs de l'énergie, ce sont, à mes yeux ou à mes oreilles, Beethoven et Bartok. D'autre part, diversité expressive. Alors là aussi, si vous voulez, je crois que c'est tout à fait étonnant, c'est la variété de paysages expressifs que nous offre Beethoven, et de diversité, diversité et de contraste. C'est-à-dire, on peut passer des choses les plus tendres et les plus douces aux choses les plus violentes. Enfin, disons, le contraste et les oppositions, construire un monde avec tout ce qui existe dans sa musique, c'est ce qu'il a fait précisément dans ses derniers quatuors, où on trouve absolument tous les types de sentiments, tous les types d'émotions, et présentés justement avec une organisation telle que les contrastes que Beethoven nous montre sont extrêmement éloquents. Et alors, autre chose aussi, j'aime à dire que Beethoven est un musicien de l'événement. C'est-à-dire que chez Beethoven, il se passe toujours quelque chose. Vous avez parfois des moments de fausse somnolence, et on se dit Waterloo, morne plaine. Et puis brusquement, il arrive quelque chose d'assourdissant, d'étonnant, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est justement l'événement. Alors, l'événement, ce sens de l'événement que peut avoir Beethoven, a sûrement des origines psychologique et dans la vie du compositeur. Je sais qu'il a été à la mode de penser que la vie du compositeur n'avait pas beaucoup d'intérêt par rapport à son œuvre. C'est souvent vrai. Mais dans le cas de Beethoven, j'espère vous montrer l'inverse. Quand il était enfant, Beethoven était un être assez solitaire. Il savait s'ennuyer. S'ennuyant, il pensait et il cherchait en lui-même des ressources. Et puis, il était soumis à des espèces, à ce que une de ses amies appelait des raptus. C'est-à-dire, brusquement, il était là, et puis brusquement, il était ailleurs. Quelque chose arrivait, il devenait un autre être. Et ça, sa musique le traduit très bien, et notamment son quatuor, opus 135. Alors, avant de l'écouter, je vais vous montrer, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer une partition, mais il ne s'agit pas du tout de lire les notes, il s'agit de voir comment fonctionnent des structures et de voir justement comment arrive ce fameux raptus ou un équivalent de ce fameux raptus. Alors, il s'agit donc du presto d'opus 135, un des derniers quatuors. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez un thème qui va être énoncé par le violoncelle, un thème populaire, tout simple, mais qui est presque masqué par une chose tout à fait étonnante qui se passe au-dessus. Alors ça, vous me direz, ça n'a rien à voir avec ce que je veux démontrer, à savoir les rapus, mais c'est quand même intéressant à signaler, c'est que, au point de vue rythmique, vous avez de la texture, et si vous, sans lire les notes, vous voyez bien, par exemple, que chaque instrument est décalé d'un temps par rapport aux deux autres. Donc ça fait une espèce de glissement de couche tout à fait étonnant. Et donc là-dessus, là-dessous, démarre le chant du violoncelle. Et puis, il est repris à l'octave, et puis brusquement, il se passe une chose étonnante. Ici, vous voyez une note. Alors, évidemment, malheureusement, il faut savoir que cette indication-là, vous voyez un petit soufflet, en fait, ça signifie forte. Et avec une modulation brusque. Brusquement, on est dans une certaine tonalité, et brusquement arrive une note tout à fait en dehors de la tonalité, une nuance tout à fait en dehors de la nuance, et qui déstabilise complètement le discours. Et alors, ça, c'est en soi intéressant parce que c'est un événement. Mais ce qui est intéressant chez Beethoven, c'est que l'événement n'est pas seulement quelque chose qui arrive, c'est quelque chose que Beethoven prend en charge et avec lequel il fait de la beauté. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la mélodie populaire est déstabilisée et vous voyez, il y a des sortes de réponses chaotiques et petit à petit, alors j'ai mis ça en rouge, mais je vous le montrerai tout à l'heure en écoutant, et petit à petit, le dérèglement va s'apaiser. Ça ressemble un peu à ce que les psychanalystes appellent un mécanisme de parexcitation, c'est-à-dire trouver des défenses pour réagir à une intrusion violente, comme cet événement qui a été représenté ici par ce bémol que vous entendrez. Donc voilà, il y a cette stabilisation après l'événement, et puis ensuite, le thème reprend à l'alto, mais alors il est lui-même complètement déstabilisé par ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que l'événement s'est produit, l'événement a été canalisé, absorbé, mais néanmoins, l'événement laisse des traces sur le discours. Et vous allez entendre que le thème tel qu'il est repris à l'alto a quelque chose d'un peu chaotique, comme si effectivement le raptus qui s'est produit avait été inscrit dans la texture musicale. Alors maintenant, vous écoutez, c'est pas très long, j'ai parlé beaucoup plus longuement de la chose que la chose elle-même, mais c'est souvent le cas en musique, je vous laisse écouter. Là, c'est le moment où se finit la plage précédente, parce que je m'excuse, je ne sais pas très... Alors, évidemment, après, le thème revient comme au début, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est évidemment, tout ça, c'est très subtil, très fugace, mais je pense quand même que vous avez pu remarquer ce qui se passait après le passage que j'ai noté en rouge, dans cette espèce de bouillonnement de l'alto, avec cette tenue en dessous, et ces notes, avec une... D'ailleurs, c'est assez curieux, parce que ces procédés-là, en fait, c'est une mélodie fausse. Il introduit des notes qui ne sont pas dans l'harmonie, et c'est un peu ce que fera Bartok plus tard. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer sur l'événement. Alors, de quoi est-ce que je vais parler encore? Dernière chose que je voudrais signaler sur la caractéristique de l'écriture beethovenienne, c'est une logique dialectique, mais ça, on aura mille fois l'occasion d'en reparler. Alors maintenant, deuxième sujet, et qui va nous occuper peut-être jusqu'à la fin de notre temps, c'est l'achèvement artistique des quatuors de Beethoven en tant que quatuor. Parce que là, on n'a pas parlé de quatuor, hein, on a parlé de musique. Ben, que ça aurait été une sonate ou une symphonie, c'était pareil. Maintenant, on parle du quatuor. Alors, je vais commencer, on va se mettre une définition. Alors, qu'est-ce que c'est que le quatuor à cordes? C'est quatre instruments à cordes aux possibilités équivalentes, mais différenciées par le registre. Alors j'ai mis en rouge, j'ai souligné en rouge les mots qui me paraissent importants. 4, le chiffre 4, un quatuor, c'est ni un trio ni un quintette, Et on verra bien, l'histoire de la musique montre que l'histoire du trio à cordes ou du quintet à cordes est moins glorieuse et produit moins de chefs-d'œuvre que le quatuor. 4, donc à cordes, donc si vous avez un quatuor avec piano, ce n'est pas un quatuor à cordes. Les cordes, c'est des instruments qui ont exactement les mêmes possibilités, qui sont des instruments à archer, donc qui ont des sonorités homogènes. Donc, aux possibilités équivalentes, effectivement, parce que l'alto, les deux violons, c'est le même instrument, l'alto joue comme le violon, le violoncelle est comme ça, mais la technique d'archer ressemble beaucoup à celle des violons. Donc, c'est des instruments aux techniques équivalentes. Tandis que si vous jouez une sonate pour piano et violon, par exemple, il est sûr qu'un pianiste n'a pas du tout les mêmes problèmes techniques qu'un violoniste. Hein. Et donc, et pour juger de l'ensemble d'une œuvre, si vous avez une sonate pour piano et violon, le pianiste aura plus de mal à donner des conseils au violoniste et le violoniste au pianiste que dans un quatuor où le second violon dira au premier « Mais là, pourquoi tu tires ?» Il peut à juste titre poser des questions pertinentes sur les raisons pour lesquelles tel interprète joue comme ci ou comme ça. Et pour le compositeur, écrire pour quatre instruments homogènes, c'est tout à fait différent d'écrire pour quatre instruments hétérogènes. Alors, et je dis différencier par le registre. Mais ça, c'est du temps de Haydn et du premier Beethoven. Parce que justement, et si vous avez écouté avec attention l'opus 127 hier, vous avez sans doute remarqué que le violoncelle monte très haut dans l'aigu, presque aussi haut que le premier violon, et Beethoven va justement un peu casser la distinction des instruments, le cloisonnement par registre. Dans l'opus 59 numéro 2, par exemple, vous entendrez l'alto passer au-dessus du premier violon, et très souvent, les voix se mélangent, et c'est un des apports de Beethoven qui va être très exploité ensuite, dans les siècles futurs, que de ne pas garder cette linéarisation des voix, le violon 1 dans tel registre, le violon 2 dans tel autre, etc. etc. Alors, donc effectivement, par rapport à ça, ce que Beethoven a extrêmement bien compris, c'est ce que c'était que l'homogène. Quelles étaient les qualités de l'homogène? Alors, donc, l'homogène lui permet en particulier de parce que l'homogène, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que une écriture homogène peut simuler l'hétérogénéité, alors que l'inverse n'est pas vrai. Si vous avez un quatuor à cordes, vous pouvez, s'il y en a un qui joue en pizzicato et que l'autre joue avec archer, vous avez l'impression d'avoir deux instruments. En revanche, si vous avez une sonate pour piano et violon, vous pouvez faire ce que vous voulez, le piano jouera du piano et le violon du violon. Hein, ça, c'est évident. Et alors, Beethoven a compris ça, les possibilités de l'homogène. Parce que l'homogène était intéressant dans la mesure justement où il pouvait devenir hétérogène. Donc, on parlait de dialectique tout à l'heure, eh bien, une des grandes clairvoyances de Beethoven, c'est d'avoir compris que justement la beauté du quatuor reposait sur cette espèce de dialectique personnification des voix, indifférenciation, c'est-à-dire que les voix se singularisent mais se fondent l'une dans l'autre. Et donc les deux aspects peuvent tout à fait coexister et se succéder. Et justement, l'art du quatuor, ça consiste à savoir gérer cela. Alors il y a des compositeurs, par exemple, qui n'écrivent qu'homophone. C'est-à-dire, c'est la dialectique entre est-ce que le quatuor, c'est un instrument à 16 cordes, un seul instrument, ou est-ce que c'est 4 instruments à 4 cordes? Parce que ce n'est pas la même chose. Dans un cas, vous écrivez tout en bloc pour 16 cordes. Par exemple, César Franck, qui est un compositeur de quatuor organiste, il était organiste, il a composé pour le quatuor comme un organiste, donc c'est de l'homophonie. Ou alors, au contraire, vous pouvez ne faire des successions de mélodies, et donc vous êtes à l'inverse, vous êtes dans l'hétérophonie absolue. Mais alors justement, Beethoven, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux, il y a un bon équilibre, et on n'est pas toujours là ou toujours là, il y a une dialectique entre les deux. Et alors, par exemple, je vais vous donner quelques exemples, notamment un exemple de fusion, à partir de la dissociation. Alors, au début de l'opus 135, alors vous me direz, mais je croyais que c'était demain les derniers quatuors. Oui, c'est vrai, mais là, aujourd'hui, on parle des quatuors en général. Donc, les derniers en font partie en particulier. Alors, encore une fois, là, c'est difficile, mais peu importe la lecture des choses. Mais là, c'est une chose tout à fait étonnante, mais que vous avez déjà entendu hier soir, si vous avez été vigilant, en écoutant le début de l'opus 120, du mouvement lent de l'opus 127. Là, c'est une grande beauté esthétique, sans même avoir à l'entendre. Cette idée qu'avant de jouer le thème qui est là, après la ligne bleue, les quatre voix se réunissent. Donc, on part d'un accord de l'alto, puis entre le violon 2, puis le violon 1, puis le violoncelle, un crescendo, et ensuite les voix se sont réunies sur un accord. Et à ce moment-là, une fois les voix réunies, la mélodie peut commencer. Et ça, vous avez entendu exactement la même chose au début de l'opus 127, avec départ du violoncelle. Enfin, vous le connaissez comme moi. Donc, alors maintenant, on va écouter. Là, ce n'est pas du tout pour le plaisir d'écouter le quatuor, mais qui vous écouterez, je ne sais plus quand, dans les jours qui viennent. Mais donc, juste, faites attention à ce geste de fusion et ensuite à l'arrivée de la mélodie à partir de ce geste initial. Alors, justement, juste un mot avant, un compositeur moins inspiré, Beethoven, aurait commencé directement par son thème, qui est superbe. Et en soi, c'est magnifique, mais le fait d'avoir eu cette idée de l'union des voix avant, de sorte de tuilage d'accord, avant de commencer la mélodie, ça ajoute une espèce de poésie, de force expressive incomparable.